Bien, bonjour. Merci beaucoup à tous d'être là pour notre dernière table ronde de ces deux jours. Donc l'avantage de passer en dernier, c'est qu'il y a en fait beaucoup de questions qui ont déjà été posées et qu'on va pouvoir croiser avec les intervenants de ce matin, puisque donc ce matin, c'est plutôt un focus autour de l'utilisation de la bande dessinée comme moyen d'enseignement. C'est-à-dire comment utiliser la bande dessinée dans différents cours. Et nous allons avoir trois exemples, ce qui va me sembler absolument passionnant, puisque donc dans l'ordre avec Corinne, nous allons avoir quelque chose qui est lié donc, aux travaux dirigés au TP de biologie. Avec Lucie, nous allons avoir quelque chose de passionnant autour donc, de la sociologie et de la transcription en bande dessinée de concepts sociologique, et avec Philippe, nous allons avoir quelque chose autour de la didactique de l'art par, et j'allais dire presque pour aussi, la bande dessinée. Donc un champ qui couvre finalement histoire de l'art, sciences humaines et sciences dures. Je pensais globalement comme ça qu'on organiserait notre présentation autour de trois thématiques qui vont pouvoir s'entrecroiser. Évidemment, la première qui était la bande dessinée comme support inédit à un enseignement, enseignement scientifique, y compris pour l'histoire de l'art. Une deuxième thématique qui serait la bande dessinée comme mise en pratique originale des connaissances et des compétences, c'est-à-dire en quoi l'utilisation de la bande dessinée permet de mobiliser différemment des connaissances de la part des étudiants, mais aussi de la part des enseignants. Qu'est-ce que les enseignants apprennent de leur enseignement à travers la bande dessinée ? Un questionnement qui a aussi déjà été en partie évoqué hier quand on a travaillé sur ma thèse en bande dessinée, notamment avec Juliette Langelet. Et puis une dernière thématique qui serait, que j'avais appelée un peu pompeusement, rayonnement, collaboration et perspective, qui était de réfléchir sur comment est-ce que ces pratiques avaient éventuellement rayonné dans d'autres composantes de l'université. Est-ce que d'autres enseignants absolument jaloux de la bande dessinée s'étaient dit « mais oui, il faut absolument que je fasse ça chez moi aussi », les collaborations, possibles ou pas, avec les services culture, par exemple, des universités, question qu'on avait déjà vue hier aussi sur la valorisation des résidences d'artistes. On a vu l'importance des services culture pour donc valoriser les résidences d'artistes. Est-ce que là, il y a aussi un écho à l'intérieur, plus globalement, de la vie étudiante de l'université. Donc je crois que nous allons commencer par Corinne Faucheux, donc maître de conférence biologie université de Bordeaux. Alors la première question qui était un peu de nous présenter l'outil que vous avez mis en place, quels étaient les outils spécifiques que vous avez mis en place, à quel niveau de formation aussi, pourquoi à ce niveau-là de cours, pourquoi dans votre propre discipline, donc là, la biologie, et avec quels objectifs pédagogiques vous les avez mis en place.
Est-ce que je vais vous présenter les diapos ou on discute de tout ça d'abord?
Bah, s'il n'y a pas 50 283 diapos,
d'accord.
Commençons non, par on peut présenter dire, les diapos, peux... comme ça on a une idée aussi.
Non, mais je peux le voir sans, le dire sans support. En fait, ça a commencé au moment du confinement, le premier confinement, puisque c'était en milieu d'année, hein, c'était en mars. Donc il y avait une partie qui avait pratiqué en salle de TP et l'autre partie tout s'est arrêté brutalement, on pouvait même plus rentrer dans les bâtiments. Donc du coup l'idée c'est savoir comment on pouvait gérer ces étudiants qui n'avaient pas du tout assisté au TP et qui pour pas qu'ils soient en déficit par rapport aux autres étudiants qui avaient suivi les travaux pratiques. Donc, du coup, au début, ça a commencé en roman photo, essayer de prendre des photos en TP, mais on ne pouvait plus rentrer dans les salles. Donc, du coup, l'idée est venue de images, textes, bande dessinée. Voilà comment ça a commencé. Alors, quel niveau d'études? Ça a commencé en licence 2 parce qu'on était pile au moment où c'était les TP de licence 2. L'année d'après, on a fait du licence 3 parce qu'on a dû enseigner en demi-groupe. Donc, il nous manquait des heures d'enseignement. Donc, on a compensé ces heures d'enseignement avec des bandes dessinées parce qu'on ne pouvait pas faire la totalité des heures puisqu'on était en demi-groupe et on ne pouvait pas dédoubler le nombre de groupes. Et après, j'ai fait du master aussi. Donc, en fait, ça va de la licence 2 jusqu'au master 1. Voilà. Il y a plusieurs types de TP, mais en fait, les BD que j'ai faites, c'est en fonction de mes TP à moi pour l'instant. Les supports ont été faits. Alors pourquoi pas d'autres disciplines ? Parce que c'est un manque de temps pour l'instant. Et puis les autres disciplines, ben, par exemple, je pourrais faire pour la chimie. Mais il faut d'abord que je m'approprie le sujet. Il faut que je discute avec l'enseignant qui fait les travaux pratiques. Donc tout, il y a une histoire de temps aussi là-dedans.
Oui, quels étaient les objectifs pédagogiques que vous vouliez mettre en avant ?
Alors, au début, les objectifs, c'était leur donner les compétences pour pratiquer, c'est-à-dire les travaux pratiques, c'est savoir comment on tient une pipette, mettre en œuvre un protocole et avoir des résultats. Donc, au début, à l'origine, c'était pas du tout, il y avait pas du tout de, ça allait pas continuer dans le temps. Pour moi, c'était juste, voilà, on va leur donner une espèce de roman photo pour savoir comment pratiquer. Comment toutes les théories et toute la pratique. Et puis ensuite, on l'a utilisé en hybride, c'est-à-dire qu'on l'a utilisé où on leur donne à l'avance, il faut qu'ils la lisent, et après ils viennent en travaux pratiques et ils pratiquent ce qu'ils ont appris en BD. Parce qu'on peut pas, on peut pas supprimer les travaux pratiques. Une BD ne peut pas remplacer un travaux pratique. Ça, j'en suis convaincue. La pratique, c'est essentiel dans une salle de TP. Donc maintenant, on fait en hybride, c'est-à-dire qu'ils lisent avant, ils viennent en TP, ils pratiquent, et ensuite, ce support sert de révision. Donc il y a le avant, pendant et après. Alors à quoi ça sert pendant ? Eh ben moi, j'étais très surprise de voir que certains étudiants sont venus avec les planches de BD. Enfin, à l'époque, j'ai appelé ça BD, mais ce n'était pas tout à fait une BD, de tout ce qu'ils ont vu en TP et qui suivaient en même temps que les TP. Voilà. Donc, c'était très bien perçu par les étudiants, en tout cas.
Voilà, on reviendra sur la perception. Peut-être que vous pouvez nous montrer quelques images de ce que vous avez mis en place.
Là, il y a de la technologie. Là.
Parce que l'une des particularités par rapport aux deux autres propositions que nous avons ce matin, c'est que c'est vous-même qui avez réalisé ces supports. Donc, le travail de Philippe, on va voir, est plutôt celui des étudiants. Lucie, vous avez travaillé avec des illustrateurs. Donc, comment est-ce que vous êtes dit, je vais le faire tout seul, finalement, toute seule, je vais me lancer là-dedans, sans être une spécialiste de la bande dessinée, sans savoir particulièrement dessiner, c'est un peu se jeter à l'eau sans savoir nager. Comment est-ce que vous êtes lancée dans cette expérience ?
En fait, je ne suis pas du tout. Je suis une lectrice, mais pas sans plus. Je ne sais pas dessiner non plus. Donc, mais en tant qu'enseignant, on maîtrise pas mal les logiciels PowerPoint, tout ce qui est diaporama, Photoshop, parce que quand on publie, on est obligé de faire les figures, on maîtrise Photoshop, l'illustrateur, c'est la même chose. Donc en fait, on sait un peu faire du dessin, mais numérique en fait. Au crayon, je suis incapable de faire du dessin, ça c'est sûr. Donc en fait, tout ce qui est fait, c'est numérique. On fait des dessins, des arrondis, même si les dessins sont très anguleux, parce que sur ordinateur, c'est très pixelé. Mais on y arrive. Enfin, j'y suis arrivée. Alors, bon, je vous passe les détails, juste pour vous dire qu'on a fait une publication. Parce que pourquoi une publication ? C'était pour faire connaître le concept. Donc, on a pas mal de collaborations après. Mais c'est surtout quand, en tant qu'enseignant-chercheur, on est obligé de valoriser son travail. Et que pendant le confinement, on n'a pas pu faire grand-chose. Donc, c'était une façon de valoriser le travail qui avait été fait. Ça, je le présenterai, je ne le présente pas. Voilà, les premiers débuts, c'est ça. Voilà, c'était même pas une BD, c'était une diapo avec des vignettes. On a pris des personnages un peu à droite, à gauche, des vraies images, puisque les tubes Eppendorf, là, qui sont juste à côté, anti-vimentine, etc., ce sont des vraies images. Donc, on mélange des images, des dessins. On va régler cette histoire de copyright, donc on verra plus tard tout ce qui est propriété d'image. Mais c'était notre début, en fait. Donc on a eu beaucoup de critiques dans le sens où c'était pas un format BD classique, que les étudiants avaient du mal à lire, dans le sens de lecture. Nous, c'était une diapo. Finalement, on a fait une diapo au début. Et maintenant, donc, ça j'en reviendrai après. Donc maintenant, ça donne ça. Donc la partie qui est sur ici sur la droite là-bas, c'est ce qu'on a trouvé maintenant, ce qu'on a fait. Donc on est en format portrait, avec des cadres bien identifiés, les bulles de dialogue bien identifiées. Enfin, on n'avait pas du tout de code de BD, parce qu'on a appris qu'il y avait des codes. Les cadres, les espaces entre les cadres, les bulles, l'écriture en capital. Alors, donc on a écrit... Enfin, il y avait des codes qu'on n'avait pas du tout. Après, on a fait une petite formation d'une journée. On n'apprend pas tout en une journée. Mais les codes pour fabriquer des cadres. Donc, on a essayé après de faire du décor, des détails. En fait, une BD, c'est pas qu'un personnage. Pour nous, c'était du détail. C'est quoi une salle de TP, les différents appareils, voilà. Alors après, je l'ai présenté comme un petit peu une bande-annonce. Il y a des questions. Les professeurs posent des questions puisque le professeur est près du tableau. L'étudiant est devant sa paillasse. Il est de dos ici. Je peux pas montrer, mais il est de dos. Les étudiants posent des questions. Il y a des décors. Alors c'est vrai qu'on met beaucoup d'humour. Parce que ça marche bien aussi. C'est un dérivatif, mais il ne faut pas trop dériver non plus, parce qu'on perd la concentration des étudiants. Il y a des dangers, bien sûr. Dans une salle de TP, il y a plein de dangers. Des flashbacks très importants, ce qu'on ne peut pas mettre toujours dans un écrit, dans un protocole. Parce que le problème, quand ils viennent en TP, c'est qu'on leur donne des écrits, des pages de protocole à lire. Ça les ennuie, ça les démotive, et la plupart ne viennent pas. Donc avec le BD... Il y a 80% des étudiants qui ont lu la BD avant de venir, ce qui était exceptionnel pour nous. Alors, quand je parle de 80%, parce qu'on a des TP, ils sont à 600. Donc, dans des salles de TP, on est à 36 dans une salle de TP, ce qui est énorme pour faire un travaux pratiques. Donc, on fait des flashbacks sur la théorie qu'ils sont censés savoir connaître avant de venir en TP, mais aussi de l'histoire, parce que c'est très important et on n'en parle pas assez. Comment ça a été découvert, quel tampon on utilise, qui l'a découvert. Donc, on fait des flashbacks sur l'historique aussi, ce qui est très important. Des retours, donc j'ai dit, sur la théorie, ce qu'ils sont censés savoir avant de venir en TP. Parce qu'en TP, on est censé que pratiquer de l'action, du suspense pour les résultats. Et on a mis en place différents niveaux, c'est-à-dire que quand je dis que c'est une BD en licence 2, à la fin, on a mis « savoir plus ». C'est-à-dire qu'un étudiant de licence 2 qui a vu la BD peut revenir en licence 3 ou en master et regarder ce niveau savoir plus pour en apprendre plus, pour aller plus dans le détail de la technique ou de la pratique. Voilà. Bon, il y a encore toujours du blabla. Malheureusement, on n'y échappe pas en science. Le science dure, j'aime pas du tout le mot science dure, mais en science de la vie.
Les sciences inhumaines.
En science de la vie. On a aussi besoin de blabla pour expliquer la théorie. Voilà.
Alors, juste une question, mais qui sera aussi une question que je poserai, je pense, à chacun des intervenants, mais qui me semble idéale à ce moment-là, puisque vous dites que finalement, et c'est intéressant, la première bande dessinée ou les premières images que vous avez montrées, c'était finalement des diapos, c'était finalement des illustrations qui étaient ce qu'on pouvait faire avant, et vous avez appris, en quelque sorte, à passer à quelque chose qui est une bande dessinée, qui a une narration, qui a cet espace intericonique, etc., etc. À quel moment vous êtes dit, juste des diapos, qui est finalement quelque chose d'assez classique, ça ne fonctionne pas, et il faut que je passe à de la bande dessinée?
Alors, ce n'est pas que ça ne fonctionnait pas, c'est que le support n'était pas idéal. Ça fonctionnait, mais il n'était pas optimisé, en fait. Donc, c'est pour ça qu'on s'est dit qu'il faut qu'on passe en format... pour moi, le format BD, c'était portrait. Maintenant, je me rends compte qu'on peut faire ce qu'on veut en BD et dans le format qu'on veut, puisque j'ai vu une frise, le petit format qui n'était pas nécessairement portrait. Donc, je me dis, je suis passée en format portrait, mais peut-être que j'aurais pas dû. Mais bon, je trouve que ce qu'on a fait est pas mal. Enfin, pour nous débutants, c'est pas mal. Mais c'est vrai que le format, quand même, portrait est plus cadré. Voilà, il est plus régulier, il est plus cadré. On arrive mieux à lire. Voilà. Et puis, on a aussi, dans une diapo, nous, en tant qu'enseignants, on veut mettre un maximum de choses sur une diapo, ce qui est un tort. Donc on a essayé, par exemple, d'une diapo, ce que j'appelle une diapo au début, bah, s'il faut, on a fait deux planches en format portrait, parce qu'on a un petit peu espacé les événements pour moins, pour avoir moins de bulles, pour alléger le format. Voilà.
Vous avez appris à faire de la bande dessinée.
Je ne sais pas si je peux dire ça.
Alors, peut-être nous allons passer, alors techniquement, est-ce qu'on peut essayer de passer à Lucie Si Lucie, vous nous entendez?
Oui, je vous entends très bien.
Oui, super, bien. Parfait, génial. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter votre expérience, donc qui est plutôt autour de la sociologie et la volonté d'exprimer en bande dessinée des concepts de sociologie? Et vous, une des particularités, c'est que vous avez travaillé avec un sociologue spécialiste, justement, de la bande dessinée, et vous avez aussi travaillé avec des artistes pour ces planches. Donc, première question qui est un peu identique, pourquoi et à quel niveau d'études et pourquoi vous avez voulu passer par la bande dessinée? Par contre, la pratique, la mise en œuvre est très différente de celle de Lucie qu'elle vient de nous présenter.
Oui, merci beaucoup pour ces questions et plus généralement, merci pour l'invitation à ces superbes journées. Et je tiens à m'excuser de ne pas pouvoir être présente, je le regrette beaucoup physiquement parmi vous aujourd'hui. Alors, peut-être un mot rapide pour présenter le projet. Donc, de mon côté, il s'agissait d'organiser des ateliers d'écriture dessinée, d'écriture en bande dessinée avec les étudiants. À l'origine, les étudiants de première année. Au tout début du projet, en fait, celui-ci s'est inscrit dans un dispositif d'accueil pour les étudiants de L1 en difficulté, ce qu'on appelle les étudiants qui ont été identifiés comme ayant reçu un oui-si sur Parcoursup. Donc, au moment de la mise en place de Parcoursup, on a bénéficié de moyens pour mettre en place des cours sous des formes pédagogiques un peu innovantes pour ces étudiants. Très vite, du côté de mon département, il a été question d'ouvrir ces dispositifs à l'ensemble des étudiants du département qui souhaitaient y participer. Donc, en fait, on ne s'est pas du tout cantonné d'appeler nos étudiants ici de première année, mais on a invité tous les étudiants du département qui souhaitaient venir à venir dessiner avec nous des concepts de bande dessinée, des concepts de sociologie en bande dessinée. Donc, on s'est retrouvés avec une vingtaine d'étudiants la première année qu'on a conduit le projet et puis à peu près autant la seconde année. Il s'agissait d'ateliers qui duraient en tout à peu près une quinzaine d'heures, qui étaient animés effectivement la première année par un sociologue qui dessine lui-même et qui fait de la vulgarisation scientifique en BD, de la vulgarisation de sociologie en BD, et une auteure de bande dessinée. Et puis la deuxième année, c'est un autre collègue auteur de bande dessinée qui menait les ateliers, et moi pour le côté sociaux. L'idée et l'objectif général, c'était de confier à chaque étudiant ou enseignant, parce qu'en fait, on était une vingtaine, un collectif d'une vingtaine de personnes, avec en fait cinq enseignants qui suivaient aussi le cours, pour apprendre aussi à dessiner et à apprendre les rudiments de l'écriture en bande dessinée. Donc, on s'est mis à côté des étudiants pour apprendre avec eux et se soumettre à l'exercice. Donc, chacun d'entre nous avait pour mission de dessiner un concept de sociologie dans le cadre d'une planche de BD. Et parmi les étudiants et les enseignants qui étaient impliqués dans le projet, certains savaient très bien dessiner, connaissaient très bien l'univers de la bande dessinée et ses codes d'écriture, et d'autres connaissaient pas du tout... ça n'avait pas du tout dessiné. Donc l'objectif, c'était d'amener chacun au bout de ce projet pour qu'on puisse essayer de mettre en récit et en dessin, chacun avec nos compétences, nos capacités, une notion de sociologie. Donc les notions qu'on a illustrées, c'était par exemple le genre, l'habitus, le lien social, la mobilité sociale, la violence symbolique, la socialisation, donc vraiment les grandes notions qu'on apprend aux étudiants en licence et en particulier en première année. Et l'objectif final du projet, c'était aussi de fabriquer une bande dessinée donc qui fait 70 pages, qu'on a pu imprimer et qui constitue aujourd'hui un support pédagogique qui est distribué à tous les étudiants de première année. Donc chaque année, au moment de la rentrée, on leur distribue cette bande dessinée qui a été fabriquée par des étudiants de notre université pour des étudiants de notre université. Donc voilà ce que ça donne. Et donc elle fait à peu près 70 pages. On a 26 concepts donc, qui ont été dessinés dans ce cadre. Alors je vais peut-être projeter mon diaporama. Vous montrer un peu comment ça se présente. Donc, sur la première diapo, donc, il y a une image qui représente trois étudiants en train de plancher sur leur planche, en train de dessiner leur concept. Et puis, ici, un focus sur une des 26 planches qui a été fabriquée. Donc là, c'est la notion de reproduction sociale qui est mise en dessin par une étudiante de Master 1. Et dans notre petit livret, dans notre petite bande dessinée qu'on a construite, on a voilà, essayé d'expliciter, de donner des renseignements complémentaires sur la notion de reproduction sociale qui viennent en miroir de la bande dessinée qui a été construite par cette étudiante. Donc, on commence systématiquement par une citation de l'auteur de la notion et une explication donnée par l'étudiant qui propose une lecture de sa bande dessinée et du lien qu'elle a fait entre une situation, une intrigue et la notion. Et pour finir, à chaque fois, systématiquement pour chaque notion, on a aussi indiqué des éléments bibliographiques pour aller plus loin sur la notion. Donc ça, c'est le support pédagogique qui a été fabriqué par tous les participants des ateliers. Peut-être oui, pour répondre à la question des objectifs également, ce qu'on avait en tête au moment de la conception des ateliers, c'était aussi d'essayer, parce qu'on était aussi pendant le Covid quand ça a été mis en place, et l'idée c'était aussi déjà de retrouver un espace pour retrouver les étudiants physiquement autour d'une activité manuelle physique au moment où on était tous contraints de se parler par écran interposé et à distance les uns des autres. Donc c'était aussi l'idée de créer un espace un peu plus convivial que ce qu'on avait pris l'habitude de faire avec les cours à distance pour enseigner. Et aussi, dans le cadre des activités de notre laboratoire, on avait reçu Irène Pereira qui avait fait une présentation sur son ouvrage sur les pédagogies critiques qui nous avait, dans l'équipe, beaucoup inspiré. Donc, il y avait aussi un peu un objectif de créer un espace pédagogique où personne n'est totalement savant, ignorant, où les savoirs se co-construisent avec les enseignants et les étudiants. Donc ça a donné lieu à des échanges un peu différents de ceux qu'on a habituellement en classe avec les étudiants, parce qu'en fait, parfois, c'était les étudiants qui venaient aider les enseignants à dessiner. Et voilà, donc chacun avait un regard un peu sur les planches des uns et des autres, sur la mise en récit. Donc c'était vraiment une affaire collective, la construction de cette bande dessinée. Et c'était aussi un des objectifs qu'on avait en mettant en place ces ateliers.
Alors Lucie, on a quelques questions à vous poser, mais peut-être l'image s'est brutalement figée dans quelque chose d'un peu surréaliste, on dirait un cornet de fish and chips. Voilà, je crois que c'est mieux comme ça, et comme ça on vous retrouve. Alors, première question, c'était celle du fait que, c'est aussi une question qu'on s'est posée hier dans ma thèse en bande dessinée, où, comment est-ce que les étudiants ont réagi à la notion du dessin ? C'est-à-dire qu'a priori, c'est des gens qui ne savent pas dessiner, enfin, en tout cas qui
qui ne viennent pas en sociologie pour faire du dessin. On reviendra après sur qu'est-ce que ça a mis en enjeu comme savoir. Mais d'abord, très concrètement, première question, comment vous avez dépassé en fait cette notion du dessin? Et deuxièmement, comment s'est passé tous les liens possibles avec les illustrateurs, les artistes, les intervenants qui sont venus? Et du coup, qu'est-ce qu'ils ont appris? La question d'après sera qu'est-ce qu'ils ont appris sur la sociologie? Mais la question maintenant serait qu'est-ce qu'ils ont appris sur la bande dessinée? Donc le dessin, les interventions avec les artistes et finalement leur réflexion autour de la bande dessinée.
Merci pour vos questions. Alors déjà, peut-être que effectivement, pour les en fait, il y avait des réactions contrastées chez les étudiants. Beaucoup, beaucoup d'enthousiasme pour ceux qui savaient dessiner, aimaient déjà dessiner, peignaient par ailleurs. Donc beaucoup, beaucoup d'enthousiasme pour eux à l'idée de mêler, de faire d'établir un dialogue science-art. Et puis plus de réticence pour les étudiants qui savaient pas dessiner, avec plus d'inhibition. Et en fait, quand je parle des étudiants, c'était exactement la même chose du côté des enseignants qui ont participé aux ateliers, parce que la plupart d'entre nous ne savaient pas dessiner. Et pour lever cette appréhension, en fait, on a pu compter sur les illustrateurs et auteurs de bandes dessinées qui animaient les ateliers. Dans un premier temps, il s'agissait d'une auteure de BD qui s'appelle Léa Mazet, mais elle était accompagnée de Pierre Nocerino, un sociologue qui lui aussi dessine, et qui en fait, donc eux pour la deuxième année, la première année, et pour la seconde, c'était Tommy, donc un auteur de bande dessinée qui appartient à l'association Stimuli. Il me semble que vous avez une intervention de Laurence Bordenave hier, qui est venue présenter les activités de l'association. Et en fait, leur rôle, ça a été de nous expliquer qu'on pouvait tout à fait dessiner sans savoir dessiner, écrire une histoire avec des bonhommes bâtons. Donc ils sont allés chercher des exemples dans des bandes dessinées qui sont dessinées très très simplement. Ensuite, dans le déroulement des ateliers, ils étaient là en appui pour nous aider à dessiner des choses un peu compliquées, des perspectives ou ce genre de choses. Et puis surtout, ils nous ont formés. Donc on s'est vu dans le cadre de 5 demi-journées. Donc ils nous ont formés aux rudiments de l'écriture en bande dessinée. C'est-à-dire qu'on a eu... ils nous ont expliqué comment on pense un personnage, comment on le dessine, comment on fabrique un storyboard. Ils nous ont à chaque fois donné des conseils sur l'intrigue qu'on avait choisie les uns les autres pour la simplifier le plus possible, pour que ce soit le plus clair possible. Souvent, c'était ça qui était difficile. Donc, on a eu en quelque sorte en accéléré une sorte de formation sur l'écriture de la sociologie en bande dessinée, qui répond à bien d'autres codes que l'écriture textuelle, bien entendu. Voilà,
je pense que c'était les réponses aux deux questions. On reviendra après sur la partie qu'est-ce que, finalement, ils ont appris de la sociologie, et qu'est-ce qu'ils ont appris de la biologie à travers cet exemple. Pour la petite histoire, Léa Mazet est une autrice qui est publiée également aux éditions de La Gouttière, qui sont les éditions d'Amiens, donc du festival Les Rendez-vous de la bande dessinée d'Amiens. Donc le monde est petit. Peut-être troisième proposition, et puis on reviendra à vous dans la foulée. Philippe Barriguin, donc vous, c'est encore une autre démarche, puisque du coup vous êtes habitué à travailler avec des gens dont le dessin est la première forme d'expression, et pourtant vous allez en quelque sorte tordre le cou à cette forme d'expression avec laquelle ils sont si familiarisés, pour leur proposer de travailler différemment. Donc à quel moment de leur parcours vous leur avez proposé de passer par la bande dessinée et de passer par la bande dessinée pour exprimer une vision de l'école, une vision de l'éducation, puisque ce sont la grande majorité des gens qui se destinent à être enseignants d'art plastique, donc ils maîtrisent le dessin, mais vous allez les emmener sur un terrain qui n'est pas le leur.
Voilà. Merci Justin. Effectivement, j'enseigne en master MEF art plastique. Donc là, les travaux que je vais vous présenter proviennent de mes étudiants de master 1 MEF. C'est-à-dire que dans un peu plus d'un an, au moment où ils font les planches, dans un peu plus d'un an, ils passent le CAPES externe d'art plastique. Au CAPES externe d'art plastique, il y a une épreuve écrite. C'est 6 heures de rédaction sur un sujet qui mêle pédagogie, didactique et connaissances artistiques. Et voilà à quoi je les prépare. Bon, enfin, je suis pas tout seul sur le coup. La culture artistique, on a divisé ça pour les M1 en 7 chapitres. Et moi, je fais 2 chapitres qui s'appellent dessin IN et dessin EIN. Et couleur et matérialité. Voilà, si vous voulez piquer notre syllabus, il n'est pas très très mystérieux. Donc voilà. Et j'ai décidé à un moment d'évaluer ces étudiants sous forme de BD. Et je vais complètement retrouver ce que disait Blaise Bichon hier, c'est-à-dire qu'on a l'impression de connaître des choses, mais si on ne sait pas les visualiser, les connaît-on vraiment? Alors Blaise, vous parliez de quelque chose d'assez spécialisé, surtout d'assez ancien, un hôtel, voilà. Alors un objet votif dont on a très peu de traces, c'est aussi un objet qui s'accompagne de gestes pour lesquels on a encore moins de traces. Si j'enseigne l'art de Lascaux à l'art contemporain, au moins pour les périodes 19e, 20e siècle, on a beaucoup plus de traces que ça, et donc beaucoup plus de manières pour les étudiants de visualiser ce qui se passe. Voilà, la copie de concours qui se fait en 6 heures doit être accompagnée de dessins. Et c'est un plus, vraiment, c'est la moyenne assurée, je veux dire, pour les étudiants, s'ils arrivent à faire dans leur copie, qui fait 12 pages à peu près, quelques dessins très pertinents, des dessins heuristiques, des dessins qui montrent qu'on a compris ce qu'on est en train de dessiner. Et c'est vraiment dans cette optique-là, avec cet objectif-là, que j'ai fait dessiner mes étudiants. Alors, de mon point de vue de formateur, je vous avoue que je pourrais leur demander de faire des copies de style examen. Sauf qu'on est en M1, ils passent le concours fin de M2, donc c'est un peu tôt. Ce serait un peu piégeux d'essayer de les évaluer sur une compétence qu'ils n'ont pas encore acquise. Et de mon point de vue, franchement, est-ce que je préfère lire des copies de 12 pages ou corriger une planche de BD? Attendez, laissez-moi réfléchir. Bon, je crois que je vais rester comme ça encore pour une paire d'années. Là, je vous montre quelques petites choses. Et je rentre là, si vous le permettez, Justin, dans le détail. Alors, pour chaque diapositive, j'ai mis le prénom de l'étudiant ou de l'étudiante. Plus souvent, ce sont des femmes. L'œuvre dont elles décident de parler, la planche à gauche et à droite, un extrait de mon courrier à l'étudiante qui est de l'ordre de l'évaluation formative. C'est-à-dire que je leur demande de m'envoyer au départ un storyboard. Sur le storyboard, on échange. Je dis voilà, ça, à mon avis, ça ne fonctionne pas, etc. Pour telle et telle raison, voulez-vous modifier? La plupart du temps, c'est oui. Et je mets une note à la planche terminée avec encore une petite page de texte pour expliquer pourquoi ça fonctionne ou pourquoi ça ne fonctionne pas. Il y a vraiment une visée formatrice à cet exercice. Ce n'est pas juste se faire plaisir en faisant la BD. Bon, ici, Delphine avait décidé de travailler sur une œuvre qui est un happening de Alan Capro en 67. Et il y a pas mal d'erreurs factuelles que je relève. Par exemple, elle le situe à New York, alors que ça se passe à Pasadena, donc en banlieue de Los Angeles. Donc là, déjà, c'est un petit problème. Je veux dire, dans la copie de CAPES, ça ne va pas passer, ça. Le skyline n'est pas bon. On a quand même, pour Capro 67, quelques images du happening. Elle peut regarder et rectifier ça assez facilement. De même pour la taille des blocs. Alors, le happening fluids de Capro, ça consiste à se réunir avec des pains de glace. C'est un objet très, très courant en Californie. Et vous assemblez les pains de glace pour faire une espèce de cabane, comme ça, une structure fermée. Alors, le pain de glace, il est grand comme ça, si vous voulez. Elle le présente 6 fois plus. S'il y a un côté égyptien quoi, dans son pain de glace, il n'est pas manipulable par 2 personnes. Donc, cette idée de coopération, cette idée de « on va se débrouiller tout seul pour le faire », enfin, on va se débrouiller en équipe pour le faire, elle disparaît. Ça devient un labeur très, très, très pénible, ce que l'œuvre n'est pas au départ. Donc là, on peut échanger là-dessus. Et elle peut, elle peut rectifier. Donc tout ce travail, Delphine le fait chez elle. Hein. Les cours de culture artistique, c'est du pur cours magistral. Hein. Il y a des contenus, je parle beaucoup, mais il y a énormément de réactions des étudiants que je sollicite. Hein. Et ensuite, le travail qui serait évalué, ça se fait chez soi tranquillement. Je peux en montrer quelques autres. Bon, ici, Manon a décidé de représenter l'opposition théorique entre Goethe et Newton hein, sur la théorie de la couleur. Hein. Donc, Newton est un pur physicien. Donc, il y a un protocole scientifique qui aboutit à une conception de la couleur, alors que Goethe, lui, y introduit, je dirais avec un petit anachronisme, de la psychologie. Elle pense que la couleur se fait par la personne qui la regarde, en fait. Ce qui n'est pas idiot non plus, c'est faux scientifiquement ce que raconte Goethe, mais les peintres ont lu énormément Goethe et pas du tout Newton. Donc il y a bien une vérité là-dedans quand même. Et donc Manon, elle était intéressante parce qu'elle ne lit pas de BD du tout, ça ne l'intéresse pas du tout. Donc elle tâtonne, elle bricole, elle me trouve une forme qui est hyper belle, très très radicale, etc. Je lui dis juste là, parce que ça c'est son storyboard, hein, c'est une bosseuse quand même. Je lui dis ouais, c'est dommage parce que votre Newton il ressemble à une rockstar, il est magnifique. Et Goethe, c'est un vieux paysan, il ne va pas. Quoi. Donc je lui dis de regarder à quoi ressemblait Goethe. Et pour la planche terminale, là, le Goethe, il est beau comme Newton. Quoi. Enfin, il est plus crédible en héros de BD aussi. Hein, puisqu'à la fin, bon, on fait de la BD quand même, et il faut qu'on l'assume d'une certaine manière. Je peux encore en montrer quelques-unes ?
Oui, je pense que voilà.
Bon, celle-là, ce serait dommage de s'en priver, mais là, vous voyez, on est chez des excellents dessinateurs. Le travail de Benjamin, il est publiable. Moi, je lui dis, envoyez ses planches à Beaux-Arts Magazine, c'est meilleur que ce qu'il publie en BD sur l'art. Mais il est timide, alors il ne sait pas. Voilà, donc Armand en train de massacrer un piano de concert à coups de masse. Hein. Ensuite, il le colle et ça fait une œuvre qui s'appelle La colère. Hein. Alors, moi, ce que j'avais relevé, alors, c'est peut-être une surinterprétation, peut-être que Benjamin n'en sait rien, mais je pense que je l'avais quand même mentionné dans le cours. Armand était très, très, très curieux de culture extra-occidentale. C'était un grand collectionneur de masques et d'objets d'Afrique subsaharienne et également d'armures de samouraï japonaise, donc. Et donc, trouver Armand fan du Japon en version manga style One Punch Man, pour moi, ça faisait sens. C'était intéressant. Et malgré toute la qualité de cette planche, je réussis à lui trouver des petits défauts. Bon, ben voilà, je suis le prof, hein, je suis le gars un petit peu chiant qui va dire « Ah oui, mais si on gratte un peu ». Donc là, vous voyez deux personnes qui se promènent dans la première case hein, et on les voit ensuite. Mais qu'est-ce qu'ils font là ? Soit on est dans l'atelier et il n'y a pas de visiteur anonyme inconnu, hein, soit on est en galerie, et dans ce cas-là, l'œuvre, elle est achevée. Ce n'était pas une performance, là, ce n'était pas un happening, il l'a fait en atelier. Donc, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Alors, vous voyez, ça, ce type d'exemple que je vous ai montré, le Goethe et Newton, il est assez particulier, mais ce sont des exemples où l'étudiant ou l'étudiante se concentre sur la fabrication de l'œuvre. Capro et Armand.
Est-ce que c'est aussi à travers ça une manière de leur parler de l'histoire de la bande dessinée et de leur faire découvrir peut-être un art qui a sa place ou pas sa place ou pas encore sa place complètement dans le concours du CAPES? Est-ce que c'est un peu comme un peu en contrebande une manière aussi de leur faire découvrir des pans de l'histoire de la bande dessinée?
Un petit peu. Bon, je nuance un petit peu. C'est vrai que dans le domaine de l'enseignement des arts plastiques, la BD, c'était du non-art. Quoi. C'était vraiment, c'était rubbish. C'était ne faites pas faire de BD à vos élèves, c'est pas de l'art. Voilà. On s'est un petit peu calmé à ce niveau-là. Hein, il y a quand même une réconciliation assez historique entre les beaux-arts et les arts appliqués dans le domaine de l'enseignement du secondaire, hein, qui fait qu'on s'est un petit peu calmé avec cette ostracisation de la bande dessinée. Et d'ailleurs, pour les étudiants de master qui viennent de la licence de Bordeaux, du BM, ils ont déjà fait un petit peu de BD avec une de mes collègues en licence 3. Donc, ils ne sont pas surpris par les codes, etc. La plupart en lisent. Bon, je vous surprends pas, c'est surtout du manga. Hein, et j'ai quelques planches. Alors, Léonard de Vinci en manga, je crois que je ne l'ai pas mise, mais c'est absolument délicieux, quoi. Maintenant, moi, je les rends un petit peu méfiants sur l'art en bande dessinée. Parce que souvent, on a des erreurs comme les deux que je vous projette. Hein, ce sont deux, de bandes dessinées qui ont des vocations très très différentes. Il y en a une humoristique et l'autre, celle de Manara, qui est censée être un petit peu plus documentaire. Et dans les deux exemples, on a le même travers. Bon, là, je ne vais pas vous faire un cours sur la peinture baroque, mais non, si vous voulez composer un tableau avec plusieurs personnages, dont un chameau, vous ne les faites pas poser tous en même temps, comme si on allait prendre une photo. Vous faites ça pièce par pièce et avec quelques assistants qui peignent à votre place. Là, on voit les assistants, mais au niveau du dispositif de représentation, ce n'est pas ça du tout. Donc, je demande à mes étudiants d'être meilleurs un petit peu historiquement. Ils peuvent faire quelque chose de très imaginaire, la rencontre entre Goethe et Newton, de très humoristique, comme le Armand, mais on ne transige pas avec la vérité. Voilà, ça c'est important. Donc, c'est une bande dessinée, oui, qui correspond à peu près à la niche éditoriale qui est en pleine expansion actuellement, hein, de bandes dessinées sur l'art moderne et contemporain. Vous savez, quand il y a une exposition Georgia O'Keeffe, par exemple, à Beaubourg, bon, bah, simultanément, sort la BD Georgia O'Keeffe, qui est d'ailleurs pas mauvaise, celle-là, qui est plus juste, en tout cas.
Bien, alors, fin peut-être de notre première thématique sur la présentation des différentes propositions et ouverture de la deuxième, qu'on va essayer de faire assez rapidement, sur les impacts, cette fois-ci, plus pédagogiques. Et donc, peut-être, on va commencer également, on va recommencer par Corinne. D'une certaine manière, qu'est-ce qui, par le travail que vous avez initié autour des TP de biologie, comment cette forme a permis de mettre en œuvre une connaissance de la part des étudiants qu'ils n'auraient pas eu ou qu'ils n'auraient pas développé si ça leur avait été présenté sous une autre forme? Un peu la question de la médiation, qu'est-ce que la bande dessinée a permis de faire passer aux étudiants et, symétriquement, qu'est-ce que la bande dessinée a permis aux étudiants de formaliser différemment de leurs connaissances?
Alors, la bande dessinée leur a appris en amont ce qu'ils vont faire après. Qu'est-ce que ça leur a appris? En fait, il faut juste se dire, dans une salle de TP, ils sont nombreux, ils n'apprennent pas tous de la même façon, à la même rapidité. Donc, du coup, le fait d'avoir la BD en amont, ça permet déjà de les préparer pour ceux qui vont être un petit peu plus lents, qui ont moins travaillé. Donc, en fait, de le travailler avant de venir en TP. Ça leur donne de l'autonomie, parce que mine de rien, il y en a qui n'ont jamais manipé. De la motivation à apprendre avant ce qu'ils vont faire en TP. Parce qu'on prépare un TP comme on prépare un protocole. Hein. On le fait avant, pas on vient en TP les mains dans les poches. Et surtout de la confiance, voilà. Parce qu'ils savent ce qu'ils vont faire, ils savent comment ils vont le faire, maintenant il faut qu'ils le fassent. Et ça on l'a vu en salle de TP, par le nombre d'erreurs qui ont été faites, beaucoup moins d'erreurs ont été faites, et surtout de la confiance, parce qu'il y a des étudiants qui arrivent paniqués, qui n'ont jamais manipé, et qui, le fait de l'avoir vu avant, ça les a préparés et ça les a mis en confiance pour travailler en TP. Alors, c'était quoi la prochaine question?
C'était justement comment est-ce que eux ont en quelque sorte modifié parce qu'il y avait la bande dessinée. Comment est-ce que eux ont appris différemment?
Alors, ils ont appris différemment à préparer à l'avance un TP. Ce qu'ils ne comprennent pas. Pour eux, hein, on vient en TP, on vient les mains dans les poches et on va maniper et tout va être expliqué par le professeur. Non, il faut préparer en amont. C'est ce qu'on fait quand on donne des polycopiés. Sauf que les polycopiés, c'est imbuvable, hein, ils ne le font pas, ils ne les lisent pas. De toute façon, ils sont submergés par les documents. Donc, c'est une façon un peu plus ludique de leur montrer que finalement, s'ils avaient lu le poly ou peut-être la BD, c'est peut-être la même chose. Mais la BD, c'est... ils s'en souviennent mieux, de ça c'est sûr. Parce qu'un poly, au bout d'une semaine, ils ne savent plus ce qu'ils ont fait. Même le TP, hein. Et ils s'en souviennent mieux, c'est plus incrusté, ils ont une meilleure concentration quand ils lisent la BD, ça c'est sûr. Et puis aussi, moi j'appelle ça le slow education, mais ils la travaillent avant, ils peuvent la travailler dans un bus s'ils veulent, parce que maintenant avec les téléphones, ils regardent tout par le téléphone, même les cours. Et c'est une façon d'aller à leur rythme, surtout à leur rythme, parce qu'on a un public qui est différent. Les étudiants sont différents, ils apprennent à des rythmes différents. Et la BD, c'est vraiment pour les préparer au TP, mais à leur rythme. Donc, ils peuvent faire 3-4 planches, s'arrêter, revenir, faire ça dans le bus s'ils veulent, pourquoi pas, ou dans le métro. Et l'important, c'est que c'est un support sur lequel ils vont revenir après. Et on leur a demandé, est-ce que vous seriez capable, parce qu'on a fait pas mal de sondages, on serait capable de réaliser le protocole rien qu'avec la BD? Ils ont dit oui, à 80%, 70-80%. Donc c'est un support pédagogique qui est en image et qui sur lequel ils s'imprègnent mieux, parce que c'est l'image. Mais de toute façon, maintenant, l'image, c'est 90% de l'enseignement. Hein. Ça passe par l'image, quoi.
Et peut-être, donc du coup, Lucie, si on peut vous retrouver quelque part parmi nous.
Oui.
Oui. Oh, bon, vous entendez la question. On travaille sur le fait que vous arriviez physiquement presque avec nous. De votre côté, comment est-ce que la bande dessinée a permis de mettre en jeu des connaissances, un savoir sur la sociologie que les étudiants n'auraient pas forcément eu d'une autre manière, et comment le fait de, donc à la fois de dessiner mais de scénariser, parce qu'on était focalisé sur la question du dessin, mais et vous allez nous en parler aussi, quels sont les scénarios qui ont été mis en place, c'est-à-dire les histoires qui ont été racontées, et comment est-ce qu'ils ont, s'ils sont appropriés en quelque sorte, accaparés, découverts des concepts de sociologie différemment de nouveau un manuel de sociologie classique, tel qu'on l'a tous eu dans nos études.
Ok, merci. Oui, alors déjà, la première chose, c'est que chaque étudiant a passé à chaque fois une quinzaine d'heures avec une notion. Je pense qu'il y a peu d'espace qui permettent à l'université de confier une notion aux étudiants et d'y consacrer autant de temps. Ça commençait toujours par la lecture d'un petit recueil que j'avais constitué sur chaque notion. J'avais écrit un petit texte pour rappeler, faire une petite synthèse du concept, l'historique, d'où il vient, les auteurs qui l'ont porté, etc., etc. Et puis ensuite, il y avait vraiment une appropriation par la mise en pratique de la notion quand il s'est agi de scénariser justement ou de mettre en histoire, en récit ces notions. Et ce que je pense qui pouvait être intéressant, enfin c'est un retour que j'ai eu de la part des étudiants, ils m'ont dit que ce qu'ils avaient trouvé d'intéressant dans la démarche, c'était de s'approprier les notions, les concepts, en les emmenant dans leur univers à eux. Ce qu'on n'a pas toujours le temps de faire en cours quand on présente une notion, pour l'idée étant à chaque fois pour les étudiants de saisir l'actualité des notions, des débats, des théories sociologiques. Peut-être pour vous donner un exemple, l'étudiant qui a travaillé sur la notion de déviance a illustré cette notion en l'amenant dans une manifestation contre la réforme des retraites. Dans le cadre de sa bande dessinée. J'ai une autre étudiante qui travaillait sur la notion de prophétie autoréalisatrice et qui a fait un lien avec ce qui se passe autour des fake news sur les réseaux sociaux, sur TikTok, par exemple. Donc c'est par exemple le type d'exemple que personnellement, j'aurais jamais fait en cours parce que je ne fréquente pas les réseaux sociaux, mais les étudiants, ça leur a beaucoup parlé. J'ai d'autres étudiantes qui ont emmené la notion de capitalisme paradoxant de Vincent de Goljac dans l'univers des entrepôts logistiques d'Amazon où l'étudiante qui a rédigé cette planche, mais d'autres encore, ont l'habitude de fréquenter les entrepôts dans le cadre de leur job d'été ou de leurs travaux d'étudiants. Donc, je pense qu'il y avait à la fois une actualisation des concepts dans le monde des étudiants et aussi une appropriation facilitée par le temps aussi consacré au travail autour de ces notions. Après, c'est aussi une appropriation qui s'est faite par essai et erreur, parce qu'il arrivait que dans la rédaction de... quand ils ont écrit leur storyboard ou pensé leur scénario, les étudiants parfois s'écartaient un peu du sens donné par les auteurs aux différentes notions. Et du coup, voilà, les collègues enseignants qui intervenaient avec moi au sein des ateliers, on était là pour revenir avec eux sur les notions, pour qu'ils restent au plus près du sens donné par leur auteur. Donc, c'était vraiment un apprentissage des notions sociologiques par la mise en pratique. Donc ça, je pense que ça a vraiment facilité l'intériorisation, l'incorporation des notions. Et puis après, il y a aussi des notions, des connaissances en dessin et en mise en récit qui ont été mobilisées dans le cadre des ateliers et qui ont pu être réinvesties en tout cas par une partie de nos étudiants qui ont ensuite intégré le parcours en master qui s'appelle « Images et société ». Parce qu'on a un master donc, qui prépare au métier de l'audiovisuel en le conjuguant au regard sociologique, donc tous les métiers de l'audiovisuel autour de la fabrique du documentaire sociologique. Et il me semble que le processus d'écriture, les modes d'écriture, les modes de mise en récit de la bande dessinée se retrouve en partie dans l'écriture d'un documentaire vidéo ou dans l'usage de l'image plus globalement, y compris de la photographie par exemple, pour faire des sciences sociales, de la sociologie en particulier. Donc je pense par exemple au fait de faire un storyboard, d'écrire un pitch, de penser les personnages, de penser l'intrigue du récit, de penser la chute, la question du cadrage aussi qui est centrale dans la bande dessinée mais qui l'est aussi dans l'écriture d'un documentaire sociologique. Donc il y a des compétences qui ont pu être transférées par la suite pour les étudiants qui sont inscrits dans le cadre de ce cursus avec les sociétés.
Alors, une question toute bête et très pragmatique, c'était noté, ils avaient une note pour cet atelier ou c'était purement bénévole ou...
Alors, pour tous ceux qui n'étaient pas en L1, c'était bénévole sur la base du volontariat, donc pas du tout noté. Et Parcoursup, par contre, nous impose de donner une note aux étudiants qui suivent un atelier consacré aux étudiants WICI. Donc, ils ont tous eu 18, comme vous pouvez l'imaginer, parce qu'ils sont tous beaucoup investis dans l'atelier. Donc, mais ce n'était pas du tout la question que de les noter dans cet espace-là. Et plutôt de prendre du plaisir en apprenant ensemble. Voilà.
Et Philippe, du coup, quel plaisir ont pris tes étudiants à découvrir finalement donc, à la fois l'histoire de l'art et la didactique, l'enseignement de l'histoire de l'art à travers la bande dessinée, qu'ils n'auraient pas eu, ou qu'ils n'ont pas peut-être, avec une autre forme plus classique. Et au-delà du plaisir, vous avez montré les erreurs que vous leur pointiez sur certaines des planches, etc., qui sont aussi finalement des erreurs historiques. Qu'est-ce qu'ils ont mis en jeu comme savoir qu'ils n'auraient pas mobilisé si ça n'avait pas été pour créer une planche de bande dessinée?
Ouais. Bon, la notion de plaisir, on va la relativiser un petit peu. Ça reste quand même un travail universitaire. C'est très compliqué à faire, même si mes étudiants, ils ont des bases en dessin. C'est pas le cas de tous et toutes. Hein. J'en ai une qui est photographe, par exemple, et pour elle, bon, bah, dessiner, c'est très compliqué. Donc, elle a beaucoup progressé. Elle s'est raconté une histoire par l'image, par le dessin. Hein. Mais maintenant, je trouve que ces biscottes, elles sont pas d'équerre, quoi. Il fallait les faire ressembler à du Richard Serra. Et là, bon, ça passe pas. Donc, on est quand même dans une espèce de labeur. Le truc, c'est que bon, les étudiants de master, ils vont travailler 12 heures d'affilée, hein, quelquefois dans la souffrance et quelquefois un petit peu moins. Donc, effectivement, ils ont plus de facilité à travailler l'image, Hein, et ils ressentent un petit peu moins la fatigue, je dirais, en termes de plaisir, c'est le maximum que je puisse viser, vous voyez. Maintenant, en termes de connaissances, il y a énormément de choses. Alors, je m'arrête sur cette planche à propos d'Yves Klein. Ça, c'est une anecdote qui avait scandalisé Marine. Je lui raconte qu'un jour, un collectionneur allemand vient acheter un tableau d'Yves Klein à la galerie Iris Claire. Il n'y a plus de monochrome. Hein, et Klein n'est pas là. Mais Iris Claire a la clé de l'atelier, donc elle y va, elle va peindre le monochrome elle-même, et le lendemain, elle le vend, hein, tout juste sec, en disant, ouais, il m'en restait un, vous avez de la chance, tout ça. Et Marine était scandalisée par cette histoire, la question de la délégation du travail, c'est quelque chose qui fait vraiment grincer des dents, même chez des étudiants qui sont un petit peu plus spécialistes que d'autres. Hein. Et le fait de traiter légèrement cette anecdote lui a permis de prendre un petit peu de distance avec, quand même. Donc, il y a vraiment eu un processus intérieur très, très personnel, hein, qui lui a permis d'accepter certaines petites choses qui, dans l'art moderne et contemporain, paraissaient pour elle être plutôt des dérives, on va dire. Hein. Du point de vue des connaissances liées à l'épreuve du CAPES, la copie dont je parlais, ce n'est pas une copie d'histoire de l'art. Hein. C'est une copie de culture artistique liée à un projet pédagogique. Donc, il faut parler des œuvres, même des œuvres anciennes, comme si elles apparaissaient ici et maintenant. Il faut parler de la contemporanéité des œuvres et, par exemple, en parler plastiquement. Sur les mosaïques de Ravenne, alors, l'historien a énormément de choses à dire, etc., parce que la question de la fusion entre la religion et l'État, c'est quelque chose de très fort et de complètement achevé à Ravenne au VIe siècle. Mais ce n'est pas ça qu'attendent les correcteurs. Ils attendent qu'on dise, OK, qu'est-ce qui se passe plastiquement? On est inondé de couleurs, de lumière, et tout ça est lié pas seulement à l'image, mais aux matériaux, à la mosaïque, à la pâte de verre, à la feuille d'or, etc. Hein? Et donc ici, Marie a représenté ça, une visiteuse actuelle qui rentre dans la basilique San Vitale et qui est inondée comme ça de sensations vraiment lumineuses et colorées. Voilà. Là, elle est bien. Elle est vraiment dans l'esprit de la copie de CAPES. Là, c'est vraiment ça, comme ça qu'il faut réfléchir. Il faut réfléchir plastiquement. Est-ce que ça contribue à répondre? Il y a ce travail-là aussi qui est assez étonnant. Bon, alors Manon, j'ai demandé une page, elle m'en fait 3 ou 4. Donc là, je vous en montre une seule. Hein. Apollon et Daphné, c'est un chef-d'œuvre de l'art baroque, hein, et c'est issu des métamorphoses d'Ovide. Moi, je montre ça et je dis, oh, merveilleux, regardez le travail du marbre, etc. Et puis le public, qui est majoritairement féminin, me dit, mais stop, qu'est-ce qu'on est en train de regarder? Vous nous montrez une scène de viol en disant que c'est génial. Où est la notion de consentement? Je dis, effectivement, chez Ovid, je ne pense pas qu'il y avait beaucoup de vocabulaire de consentement. Et on en parle. Et elles ont tout à fait raison. Parce que les élèves leur poseront la question. Hein. Et c'est moi, le vieux prof, qui suis un petit peu le moins affûté sur ces questions-là. Donc, les étudiantes comprennent énormément de choses et je le rapporte, j'espère bien, quoi, c'est mon boulot. Hein, mais il y a énormément de choses que leur regard par la bande dessinée et articulé dans la narration m'ont apporté également à moi.
Donc, comme disait Woody Allen, n'est-ce pas, je veux bien sauver le monde, mais vous avez vu l'heure qu'il est. Donc, on nous fait signe qu'il faudrait avancer assez rapidement et qu'on puisse prendre des questions du public. Donc, peut-être très vite. Le troisième chapitre que je voulais aborder, qui était l'idée du rayonnement, c'est-à-dire l'impact de votre expérience. Vous avez été un peu pionnier dans ce que vous avez fait, soit en biologie, soit en histoire de l'art, soit en sociologie, et quel rayonnement ça a eu à l'extérieur de l'université sur d'autres composantes, d'autres enseignants qui se sont dit « génial, je veux faire la même chose ». On a vu la publication du livre tout à l'heure, on y reviendra. Est-ce que vous avez travaillé avec des services culture pour, par exemple, médiatiser, faire des expositions, etc. Donc, on commence par la biologie. Est-ce que d'autres enseignants se sont dit, mais génial, on aurait dû faire ça depuis le départ?
Alors, oui, tout le monde sait. Après, quand quelque chose est innovant, on dit, oui, c'est super, mais comment faire? Parce qu'en tant qu'enseignant-chercheur, on a beaucoup de casquettes. Et on se dit, oui, mais c'est super, mais je vais trouver où le temps pour faire ça. Donc, j'ai rameuté quelques enseignants qui essaient de créer, parce qu'on a d'autres projets, on veut faire des techniques, on va faire des bandes dessinées sur des techniques de biologie. On en a 12, on a les listés 12. Donc il y a 2-3 enseignants maintenant qui travaillent avec moi et ils ont en charge de faire une bande dessinée et moi j'en fais plusieurs. Mais c'est le temps pour un enseignant-chercheur, c'est le temps. Alors au niveau du rayonnement, ben, ça me permet d'être ici. Parce que sinon, je ne serais jamais ici, parce que je ne suis pas du tout dans le monde de la bande dessinée. Alors, j'ai quelques collaborations avec d'autres équipes pédagogiques. Mais nous, pour l'instant, notre priorité, c'est faire les supports et après les proposer à d'autres disciplines et peut-être éventuellement d'autres universités, mais de les adapter, bien sûr, en fonction de leur contenu pédagogique. Voilà. On voudrait aussi se rallier à médecine, leur proposer toutes ces BD de techniques de biologie. Et éventuellement au laboratoire aussi, parce qu'il y a beaucoup de personnels techniques qui ne comprennent pas ce qu'ils font. Et du coup, les BD, ça pourrait leur expliquer la théorie et les aider aussi dans leur pratique, voilà, au niveau des laboratoires.
Parfait. Lucie, alors vous nous entendez, donc on va vous retrouver visuellement. Vous nous avez montré la publication de ces planches. Comment s'est faite cette publication? À quel moment vous vous êtes dit c'est important qu'on puisse en faire un livre? Techniquement, qui a fabriqué, conçu, financé le livre? Quel impact ça a eu dans votre université, ailleurs? Est-ce que ça a été exposé? Est-ce que des services culture s'en sont emparés?
Oui, alors merci pour ces questions. Donc, le livre, en fait, on l'a fabriqué à trois mains. En fait, moi, je me suis occupée de fabriquer les pages d'explication des bandes dessinées et d'interroger, dans le cadre de petits entretiens, les étudiants pour qu'ils m'expliquaient le sens donné à leurs planches et pourquoi ils ont fait les différents choix qu'ils ont fait pour mettre en récit leur concept. J'ai été accompagnée par Tommy, donc le dessinateur qui est avec moi dans le cadre de la deuxième session des ateliers et qui a notamment rédigé 4 pages d'introduction, les 4 pages d'introduction de la bande dessinée, qui raconte l'histoire des ateliers et le déroulement des ateliers et les objectifs des ateliers de dessin. Et puis, on a été accompagné par une graphiste pour la fabrique du... la fabrique de l'identité graphique de la bande dessinée. On a bien sûr bénéficié de l'appui indispensable du service culture de mon université, qui a suivi le projet depuis son début, donc la genèse des ateliers jusqu'à la fabrique de cette bande dessinée. Donc sur le plan financier bien sûr, mais pas du tout seulement. Et c'est d'ailleurs les collègues du service culture qui ont été à l'initiative, enfin qui ont eu l'idée en tout cas de convertir cette bande dessinée en exposition. Une exposition itinérante en fait qui se balade à l'université d'Évry, dans les différents bâtiments, à la bibliothèque universitaire aussi. Cette expo, elle a aussi bénéficié de l'appui et du soutien vraiment extrêmement riche du personnel de la bibliothèque universitaire d'Évry, qui ont constitué une bibliographie en lien avec le sujet de la BD, donc à la fois qui ont constitué une bibliographie composée de bandes dessinées de vulgarisation scientifique en sciences humaines et sociales, mais aussi donc de bandes dessinées dites documentaires ou en lien avec des enjeux de société. Donc voilà, l'exposition était accompagnée par toute cette bibliographie importante. Donc les visiteurs de l'expo pouvant ensuite emprunter, consulter ces différents supports. Et voilà. Et du coup, qu'est-ce que ça a créé en termes d'émulation auprès des collègues? Eh bien, en fait, ça a permis des rencontres. En fait, vous disiez tout à l'heure, Madame Faucheux, qu'une des difficultés, c'était celle du manque de temps quand on est enseignant-chercheur, effectivement. Et on manque de temps pour mener à bien ce genre de projet. Et on manque aussi de temps pour en parler, en discuter entre nous. Et en fait, grâce à l'exposition, ben, je me suis rendu compte que des collègues en histoire utilisent les supports de bande dessinée dans le cadre de leurs cours, ont d'ailleurs fabriqué un atelier d'initiation à l'histoire par le biais de bandes dessinées, notamment, je crois qu'il s'appuie beaucoup sur la collection Histoire dessinée de la France. Pareil, j'ai rencontré des collègues en sciences de gestion qui ont aussi fabriqué des ateliers de dessin pour mettre en récit des situations en lien avec les apprentissages de leurs cours, assez proche de ce qu'on a fait en sociologie. Donc voilà, donc, j'imagine qu'on va pouvoir construire des collaborations pour la suite grâce à l'expo qui a été orchestrée notamment par le service culture.
Merci beaucoup. Histoire illustrée de la France dont nous avons en représentant ici, parmi nous. Philippe, alors de ton côté, j'imagine qu'il y avait peut-être moins à convaincre tes camarades et tes collègues de l'utilisation de la bande dessinée dans les arts plastiques. Mais est-ce que ça a essaimé? Est-ce que ça a donné lieu? Ou est-ce que ça donnera lieu à quelque chose qui serait des publications? Tu nous as parlé d'un colloque à Cerisy, notamment autour de cette thématique.
Cergy, oui. Ouais. Cergy, c'est autre chose. On va publier un mémoire MEF dessiné. C'est un petit peu différent. C'est sans rapport avec la culture artistique. Ici, bon, déjà, la chance fabuleuse que j'ai eue, c'est de n'avoir aucune réticence de la part de mes collègues. On est six profs à intervenir en culture artistique. Tout le monde me dit « Ok, vas-y, fais-le, c'est bien ». Bon, c'est déjà pas mal, je trouve. Au niveau de la valorisation, bon, bah, c'est une fac d'art plastique, on a une salle d'exposition, c'est facile de prendre des cadres, d'accrocher tout ça au mur et de boire des coups de vent en s'auto-congratulant, ça, c'est pas un problème. Du point de vue de la publication, je suis un petit peu plus réticent pour plusieurs raisons. La première, c'est une question de droit. Vous avez vu la planche que je trouve magnifique de Marine sur Yves Klein avec ce bleu fabuleux. Bon, bah, y a un copyright sur le bleu Klein. L'ayant droit est extrêmement féroce. Et on sait que si on met du bleu en disant c'est du Klein, il nous fait un procès pour contrefaçon. C'est impubliable, absolument impubliable. Même en noir et blanc, j'ai un collègue éditeur qui s'est fait avoir. Il fait un bleu Klein en gris. Et il a eu un procès pour ça. Bon, bref, ça, c'est... bon, il y a qu'à dire, on ne mettra pas la planche, mais c'est dommage pour Marine, quand même. L'autre raison, c'est que c'est un acte vraiment purement pédagogique. C'est-à-dire que les étudiants font des recherches personnelles et ils apprennent à synthétiser, à mettre de côté le blabla. Et quand ils sont paumés, je dis non, pensez que le lecteur, ce n'est pas moi, pensez que c'est un élève de 5e, un gamin de 12 ans. Donc, aller à l'essentiel, quoi. Et l'essentiel est visuel. Et bon, voilà. Ce qui fonctionne bien pédagogiquement, c'est toutes les imperfections qu'il y a là-dedans. On en parlait hier. Les erreurs sont fantastiques, sont tellement signifiantes. Quand l'étudiant se dit, bah voilà, j'ai compris parce que je l'ai dessiné jusqu'au bout. Qu'il y a un geste d'artiste que j'ai pas compris, comment on noue une salade à un bloc de granit avec un fil de cuivre. Non, c'est pas comme un lacet de Godas, c'est un truc que j'ai pas pigé. Donc ce serait dommage de publier quelque chose d'imparfait, et si c'était parfait, pédagogiquement, ça n'aurait plus aucun intérêt pour moi. Et puis il y a aussi le fait que si j'étais prof de yoga, je ferais une vidéo de yoga, ce serait pas pour vous dispenser de pratiquer. Vous voyez, il faut le faire soi-même. Et donc, l'idée, c'est que les étudiants, chaque génération, chaque promotion d'étudiants, fassent l'effort de réfléchir, de refaire tout le boulot, de tout reprendre à son propre niveau. Et si on leur donne en début d'année un bouquin de 48 pages avec 48 super solutions, bah, le boulot n'est plus à faire. Et ça, ce serait un petit peu dommage. Donc, je ne suis pas trop pour une publication de ça.
Ah, très intéressant d'avoir des points de vue qui, finalement, se complètent. Sinon se contredisent, mais en tout cas sur le même objet de valorisation. On me fait signe qu'il reste peut-être 5 minutes pour des questions pertinentes, les questions dans l'auditoire.
On n'a pas de questions sur le chat. Hein. Moi, j'en avais une concernant les financements et l'organisation. Vos trois projets sont très, très différents les uns des autres. Est-ce que vous avez eu des financements de la formation spécifique ou d'autres sources complémentaires afin de faire intervenir des artistes, ce qui n'est pas chose facile au sein de la formation parfois, ou d'autres formes, d'autres sources de financement?
Alors moi, je suis financée pendant 3 ans. Donc là, c'est la deuxième année, il y a encore un an. C'est un financement IDEX, donc Innovation d'Excellence, sur 3 ans. Alors, ils ne financent malheureusement pas du salaire pour un graphiste ou un scénariste. Enfin, on n'a pas vraiment besoin d'un scénariste, mais au moins un graphiste. Ils nous offrent des décharges d'enseignement. Donc, j'ai un mi-temps, voilà. Donc, je suis déchargée pour la moitié de mon enseignement cette année et l'année prochaine. Après, on a aussi beaucoup de liens avec la MAPI, qui est tout ce qui est innovation pédagogique. Ce sont des ingénieurs pédagogiques qui m'aident beaucoup à mettre en place ces BD. Et puis, quand on a un autre projet, c'est de faire des BD interactives. Avec des clics, les étudiants vont cliquer sur différents tampons, qu'est-ce que ça va donner comme expérience, ça marche pas, on revient en arrière. Donc une espèce d'apprentissage par l'erreur. Et donc ça, on voudrait mettre en place et la MAPI va m'aider. Et aussi, on avait pris en contact avec le service de communication de l'université qui nous a créé quelques personnages parce que bon, pour l'instant on a tout copié un peu sur ce qui était sur internet, mais on voudrait des personnages avec une certaine identité. Donc il y a Jacques Machuri qui nous avait fait quelques personnages avec un étudiant, une étudiante, je sais pas si je les avais dans la diapo, mais j'avais mis quelques personnages qui nous avaient créés. Bon, évidemment, il faut qu'on en montre encore, qu'on en crée encore, mais au moins d'avoir une identité. Voilà. Donc, on a Lulu qui est un étudiant, Célulia qui est une étudiante, un étudiant en master. On a le professeur Maestro. On a à peu près toutes les générations. Et bon, la professeure qui est toujours en cours, c'est toujours la femme la dernière, hein. Toujours en cours parce qu'elle me satisfait pas. Donc voilà, mais il fait ça de façon bénévole en fait parce que il est intéressé par le projet et il aime la BD et donc il nous a fait ça un peu de façon bénévole.
C'est quelqu'un en interne à l'université.
Oui, il fait partie du service de communication de l'université. Voilà. Donc on va essayer de. J'aimerais bien avoir un graphiste qui nous aide dans le graphisme en fait. Pour essayer un petit peu d'enjoliver un peu, quoi, de voir quelque chose de plus, moins carré, moins anguleux, en fait.
Lucie, est-ce que du côté des financements, donc vous avez parlé du service culture qui a financé le livre, mais est-ce qu'il y a eu d'autres sources de financement?
Oui, donc la partie la plus importante a été financée par la CEVEC Culture de l'Université d'Évry, mais on a eu aussi une participation du département de sociologie et de mon laboratoire, le Centre Pierre Naville. Ce financement a servi à payer à la fois, à rémunérer l'intervention des intervenants qui ont animé les ateliers BD et sociologie. Mais également, ils ont été convertis des formes de financement en salaire pour la graphiste et l'auteur de bande dessinée qui m'ont aidé à fabriquer la BD. Ça a permis également de financer l'impression de la bande dessinée et aussi la fabrique des panneaux qui ont servi à l'exposition associée au projet.
Et Philippe ?
Je suis très admiratif de mes collègues. Moi, ça coûte zéro. Je suis un professeur modèle, vous voyez. Je ne coûte absolument rien à mon institution. Il s'agit juste d'un choix pédagogique. Hein. Mes étudiants s'y connaissent un petit peu en BD, en images. Sinon, on se forme ensemble. J'ai un corpus d'exemples à leur montrer des choses qui ne sont pas spécialement modélisantes. Et puis, en tant que BDiste amateur, je les épaule s'ils ont besoin d'aide sur l'apprentissage du langage et des codes. Hein. Et pour les cadres et éventuellement le travail d'exposition, eh ben, ce sont des reliquats, ce sont des choses que j'ai achetées lors d'un projet de recherche précédent. Donc, voilà, c'est très modeste et ça rejoint pour moi ce que j'aime beaucoup dans la bande dessinée. Je ne veux surtout pas faire hurler les BDistes professionnels dans la salle, mais c'est merveilleux quand même d'avoir quelque chose qui coûte si peu, quoi. Tant de moyens d'expression pour si peu de moyens matériels. Hein. C'est ce qui fait de la BD aussi un des arts les plus avancés de notre époque, parce qu'un des plus autonomes par rapport au cinéma, notamment.
Alors, nous avions une question.
Oui. Alors, du coup, j'avais une remarque déjà pour commencer là, sur l'identité graphique des projets sur les manips en labo. Là, ça ressemble beaucoup à l'identité graphique des consignes de sécurité dans les avions ou anti-terrorisme. Voilà. Donc, je trouvais ça assez rigolo. Est-ce que c'était un parti pris d'avoir cette identité-là
C'était pas fait exprès. Hein.
D'accord. Je trouve que ça marche bien. Et ensuite, j'avais une autre question. C'est est-ce que avant de vous lancer dans ces projets-là, vous aviez déjà des pratiques d'innovation pédagogique, vous aviez déjà exploré d'autres manières de croiser pratiques artistiques et...
On avait essayé de faire des choses en amont, mais pas spécialement. Bon, on avait fait peut-être des QCM pédagogiques, des cours en amont qui travaillent, et puis on en discute après, donc un petit peu en hybride, mais pas ce genre-là, non. Je ne suis pas une pro de l'innovation pédagogique, non, pas du tout.
Oui, moi juste pour ma part, dans mon département, en fait, ben, comme je le disais tout à l'heure, il y a une attention qui est donnée à l'usage de l'image pour faire de la sociologie. Donc ça, c'est complètement intégré à nos manières de faire et de penser, même si moi, pour ma part, je ne suis pas du tout spécialiste de ce champ. Mais voilà, je fréquente des collègues qui réfléchissent comme ça et qui... dans le cadre du séminaire, elle emporte des réflexions sur l'usage des images en sciences sociales. Donc, je suis familière, malgré tout, de ces manières de faire. Et puis, peut-être juste en parallèle de l'atelier BD sociologie, un autre atelier qui a été mis en place par une collègue, mais auquel j'ai participé un petit peu, qui visait à faire de la sociologie par le biais du théâtre, de la pratique théâtrale. Donc on a été accompagné par deux animateurs qui ont, sur des thématiques données, amené nos étudiants à construire des petites scénettes et à les jouer sur des thématiques de société, des questions abordées en cours.
Merci. Et alors, j'avais juste une dernière question. Est-ce que vous avez eu l'occasion de présenter ces dispositifs dans le cadre de forums sur l'innovation pédagogique ou d'en parler avec les collègues également Philippe aussi, au niveau du réseau des INSPE, vous avez eu l'occasion aussi de présenter cette initiative.
J'attendais deux années d'expérimentation. J'aimerais bien aussi récupérer un autre chapitre du cours qui est celui de la présentation de l'œuvre d'art, parce que là, il me semble que la mise en image des dispositifs de présentation d'exposition est absolument vitale pour comprendre quoi que ce soit à ce chapitre. Hein, et ensuite, oui, c'est en cours, oui, je vais écrire là-dessus. Et ça s'inscrit pour moi dans une recherche un petit peu plus vaste sur la fonction heuristique du dessin dans l'éducation, hein, et qui concerne aussi des élèves d'âge, à partir de 6 ans, on va dire. Hein. J'avais travaillé avec une prof des écoles il y a pas mal d'années déjà, hein, elle était en CM1, elle disait à ses élèves, si tu rencontres un problème, que ce soit un problème scolaire, genre mathématiques ou de français, ou un problème relationnel avec quelqu'un dans l'établissement, tu as 3 manières de poser le problème. Hein, tu peux l'écrire, tu peux le dessiner ou tu peux faire une carte mentale. Et les 3 étaient totalement équivalents pour elle. Ce qui fait qu'à la fin de l'année, elle a des élèves qui dessinaient fabuleusement, pas de façon académique du tout, mais de façon très communicante, hein, et de même pour la carte mentale. Donc j'ai un séminaire de recherche sur cette question, je vais le lancer pour la troisième et dernière année, là, à la rentrée prochaine, hein, et oui, je pense écrire quelque chose d'un petit peu plus touffu quand même, et d'un petit peu plus vaste, hein, sur la fonction heuristique du dessin dans les apprentissages, et ce travail de BD avec les étudiants de master en serait un chapitre un peu final, quoi.
Moi, j'aimerais bien un jour le valoriser par l'édition, mais surtout pas pour les TP, mais pour tout ce qui est bande dessinée sur des techniques de biologie. J'aimerais bien faire une plateforme où mettre ces BD et que les autres puissent les utiliser dans leur enseignement et dans les laboratoires aussi. Mais bon, il faut d'abord qu'on fasse les supports pédagogiques.
Merci beaucoup.